Vous écoutez RFI, les midi à Paris, 11h en temps universel. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et à la une aujourd'hui, mardi 17 février, la disparition de Jesse Jackson, un orateur hors pair, pasteur, comme Martin Luther King dont il était proche. Il s'était battu comme lui pour les droits des Noirs aux États-Unis, pour les droits de tous en fait.
Blacks, women, Hispanics, workers, Indians, Chinese, Filipinos, we must come together and form the Rainbow Coalition.
À l'époque, Jesse Jackson était candidat à la présidence aux États-Unis et il lançait un appel aux Noirs, aux femmes, aux Hispaniques, aux Chinois, aux travailleurs pour former une coalition arc-en-ciel. Il était une force politique et morale, selon les mots du New York Times ce matin. Son portrait dans un instant dans le journal. Nous reviendrons aussi sur son parcours exceptionnel dans le Rendez-vous des Amériques à 13h, temps universel. Avant cela, on se penchera sur les efforts de l'Algérie pour exister, pour se relancer sur la scène diplomatique. Les relations se réchauffent avec le Niger, par exemple, un peu avec la France aussi. On essaiera de comprendre pourquoi et comment avec notre invité dans un peu plus d'une heure.
RFI Midi.
Son nom, son visage sont partout dans les médias du monde entier. Gisèle Pellicot publie un livre aujourd'hui traduit en 22 langues. Elle y raconte le procès de son mari et des dizaines d'hommes qui l'ont violée alors qu'elle était inconsciente pendant des années, en commençant par le moment où on lui a appris ce qu'elle subissait. On y revient dans 10 minutes après le journal. Et puis on parlera de sport. Les Jeux Olympiques se poursuivent à Milan, en Italie. Et puis la Ligue des Champions revient en Europe avec un match entre deux clubs français, notamment ce soir. Monaco-Paris, ça commence à 20h, temps universel. Et on en parlera dans le journal des sports dans 3/4 d'heure. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et on commence comme tous les jours avec le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
C'est donc une figure majeure des droits civiques aux États-Unis qui vient de disparaître.
Jesse Jackson est mort à l'âge de 84 ans, proche collaborateur de Martin Luther King. Il a participé aux grandes mobilisations du mouvement des droits civiques, notamment les campagnes pour la fin de la ségrégation et le droit de vote des Afro-Américains. Bonjour Lila Olkinuara.
Bonjour Karine.
C'est Jesse Jackson qui a ouvert la voie à la présence des Afro-Américains sur la scène politique américaine.
Oui, né dans une Amérique encore marquée par la ségrégation, Jesse Jackson a longtemps été la figure noire la plus influente des États-Unis. Il participe à certains des épisodes les plus marquants du combat pour l'égalité raciale. À la fin des années 60, il rejoint la conférence du leadership chrétien du Sud, cofondée par Martin Luther King. Et le 4 avril 1968, il assiste à l'assassinat de son mentor à Memphis. Il crée plusieurs associations de défense des droits civiques et bien avant Barack Obama, Jesse Jackson se présente aux élections primaires démocrates en vue des présidentielles de 1984 et de 1988. Il est le premier noir à réaliser une percée d'ampleur, récoltant 20 puis 30% des voix. Son électorat, disait-il, les désespérés, les damnés, les déshérités et les méprisés. Un combat qu'il a mené infatigablement jusqu'en 2017, où il annonce être atteint de la maladie de Parkinson et commence à limiter ses apparitions publiques. Avec quelques écarts, en avril 2021, lorsque la justice déclare le policier Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd, il se tient aux côtés de la famille Floyd à Minneapolis.
Lila Olkinuara.
Jusqu'ici, les négociations entre Russes et Ukrainiens n'ont rien donné.
Après deux rencontres peu concluantes aux Émirats Arabes Unis, les délégations des deux pays se retrouvent à Genève aujourd'hui pour de nouvelles discussions sous l'égide de Washington. Le président américain presse Kiev de faire des concessions, assurant que Moscou veut parvenir à la paix. Les Ukrainiens, comme les Européens, en doutent et dénoncent des bombardements massifs ces derniers mois qui ont dévasté le réseau énergétique du pays et les frappes, Emmanuel Chaz, se poursuivent en Ukraine.
En amont des discussions de Genève, Volodymyr Zelensky avait averti que la Russie préparait une nouvelle attaque d'ampleur. Elle a bien eu lieu la nuit dernière. Selon les autorités ukrainiennes, Moscou a lancé 29 missiles et près de 400 drones kamikazes contre l'ensemble du pays. Si elles ont été en majorité interceptées, ces bombes et leurs débris sont tombés sur 21 sites. À Odessa, 3 personnes ont été blessées et des bâtiments civils endommagés lors de ces frappes. À Soumy, une personne est morte et 6 autres, dont 2 enfants, ont été blessés lorsque des drones se sont abattus sur des bâtiments résidentiels. Et ces attaques ne se cantonnent pas à la nuit, elles se poursuivent actuellement avec des groupes de drones kamikazes qui survolent les régions de Soumy et de Kharkiv. alors que plus à l'est, des bombes planantes sont lancées sur la région de Zaporijia. Dans la région de Donetsk, toujours convoitée dans sa totalité par la Russie, qui en occupe les deux tiers, trois travailleurs du secteur énergétique ont été tués ce matin alors que leur voiture était visée par un drone russe à Sloviansk. Emmanuel Chas, Kharkiv, RFI.
Et Genève, centre diplomatique du monde aujourd'hui, lieu aussi des discussions entre Américains et Iraniens. Donald Trump entend bien participer. Le président américain ne sera pas à Genève aujourd'hui, mais il a déjà prévenu qu'il prendrait part aux discussions. Les délégations des deux pays tentent de trouver un accord sur le nucléaire, mais pas question en revanche pour les représentants de la République islamique d'aborder d'autres sujets comme le programme balistique iranien, son soutien aux groupes armés dans la région et encore moins la sanglante répression des manifestations anti-régime le mois dernier. Parmi les groupes armés soutenus par l'Iran dans la région, il y a le Hezbollah libanais. Cette milice pro-iranienne est très présente dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël. Le gouvernement affirme vouloir poursuivre son désarmement. C'est l'une des mesures de l'accord de paix de cessez-le-feu négocié entre le Hezbollah et Israël fin 2024. L'une des mesures sur lesquelles le gouvernement libanais est très attendu. Bonjour Guilhem Deltaï.
Bonjour Karine.
Le gouvernement a donné un délai d'au moins 4 mois à l'armée pour désarmer le Hezbollah au nord du fleuve Litani.
Oui, il s'agit de la phase 2 de ce plan de désarmement prévu du Hezbollah, une phase dans laquelle le gouvernement libanais, sous pression de ses alliés internationaux, occidentaux en tête, s'engage avec une prudence certaine. Ce calendrier de 4 mois est prolongeable, a immédiatement prévenu le ministre de l'Information. La durée réelle de cette phase dépendra, dit-il, des capacités disponibles, des attaques israéliennes et des entraves sur le terrain. Car les obstacles ne manquent pas. La première phase de l'accord de cessez-le-feu, qui portait sur le sud du Litani, la plus proche de la ligne de démarcation avec Israël, n'a pas été totalement respectée. L'armée israélienne accuse le Hezbollah de se réarmer et mène des opérations quotidiennement au sud comme au nord du pays. De son côté, le chef du Hezbollah a dénoncé hier encore l'agression israélienne, jugeant que les efforts visant à désarmer son mouvement servent les objectifs israéliens et sont un péché grave. Face à cette équation compliquée, le gouvernement libanais cherche donc à donner des gages de bonne volonté. Il dit vouloir poursuivre dans la voie du désarmement du Hezbollah, mais dans le même temps, il rappelle ses partenaires à leurs engagements. Une pleine application de l'accord de cessez-le-feu dépend aussi d'eux.
Guilhem Deltaï. Donald Trump continue de mettre la pression sur Cuba. Le président américain exhorte la Havane à opérer des changements politiques majeurs. Alors que l'asphyxie de l'île se poursuit, l'embargo produit d'importantes pénuries de carburant et des coupures d'électricité incessantes à Cuba.
Au Bangladesh, Tariq Rahman a été officiellement investi Premier ministre.
Il avait auparavant prêté serment avec l'ensemble des parlementaires élus la semaine dernière. Après les premières législatives depuis la chute de Sheikh Hasina en 2024, Tariq Rahman a promis, avec son parti nationaliste arrivé largement en tête des élections, de s'atteler à la reconstruction du pays et à lutter contre la forte inflation, le chômage en hausse et les investissements en berne au Bangladesh.
Emmanuel Macron est en Inde et sa visite commence à Bombay.
Dans la capitale économique de l'Inde, le président français y retrouve le Premier ministre Narendra Modi pour renforcer le partenariat bilatéral entre les deux pays dans le domaine de la défense. Un partenariat qui doit se conclure par la vente de 114 chasseurs Rafale, une commande sans précédent pour le constructeur Dassault. La suite de la visite sera placée sous le signe de l'intelligence artificielle avec un dîner inaugural demain soir à New Delhi du sommet mondial consacré à l'IA.
Lui est en Algérie et la tâche de Laurent Nunez n'est pas facile.
Celle de renouer les liens entre la France et l'Algérie alors que la crise diplomatique dure depuis des mois. Le ministre de l'Intérieur français discute depuis hier avec son homologue algérien Saïd Saïoud de lutte contre le terrorisme, d'immigration illégale et de trafic de drogue. Une rencontre avec le président est possible même si elle n'est pas annoncée.
En France, l'enquête sur la mort de l'étudiant militant d'extrême droite tué jeudi dernier à Lyon avance.
Quentin Derand, qui a succombé à des coups portés par au moins 6 individus masqués et cagoulés, mais aucune interpellation pour le moment. Le gouvernement a déjà pointé du doigt le groupe antifasciste La Jeune Garde, mouvement dissous, proche de la France Insoumise, et dénoncé la responsabilité morale de LFI dans le climat.
Yeah. comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our mother's hips. And so nature, she devised this alternative. We emerge half formed and hope whoever greets us on the other end is kind enough to fill us in. And babies, that's pretty much how it's been ever since. Now the miracle of birth leaves a few issues to address. Like, say that half of us are periodically iron deficient. So somebody's gotta go kill something while I look after the kids. I do it myself, but what? Are you gonna get this thing? It's milk. He says as soon as he gets back from the hunt, we can switch. It's hard not to fall in love with something so helpless. Ladies, I hope we don't end up regretting this. Comedy. Now that's what I call pure comedy. Just wait until the part where they start to believe they're at the center of everything, and some all-powerful being endowed this horror show with meaning. Oh, their religions are the best. They worship themselves, yet they're totally obsessed with risen zombies, celestial virgins, magic tricks, these unbelievable outfits. And they get terribly upset when you question their sacred texts, written by a woman hating epileptics. Their languages just serve to confuse them. Their confusion somehow makes them more sure. They build fortunes, poisoning their offspring, and hand out prizes when someone patents a cure. Where did they find these goons they elected to rule them? What makes these clowns they idolize so remarkable? These mammals are hell-bent on fashioning new gods, so they can go on being godless animals. A prison of beliefs,
that they never ever have to leave. Oh, comedy. Oh, it's like something that a madman would conceive. The only thing that seems to make them feel alive is the struggle to survive. But the only thing that they request, something to numb the pain with, until there's nothing human left. Just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got.
Boy, these are my heroes. And I did, and I tried to copy their style at first, and I finally decided I couldn't do that well. So I invented my own style for this week.
Thank you. auditeurs du troisième âge. C'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence.
Principe Actif, le mix des cultures. Dans le sud de l'Eure, 95.9. À Évreux, 102.4.
Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
Yeah. K-R-N-O-P.
J'aimerais
trouver les mots justes.
J'aimerais
trouver les bons gestes.
J'aimerais
conjuguer ce verbe au présent.
J'aimerais
savoir le dire simplement.
J'aimerais
trouver les mots justes.
Trouver, j'aimerais
trouver les bons gestes.
Prouver, j'aimerais
conjuguer ce verbe au présent.
J'aimerais
savoir le dire simplement.
J'aimerais
trouver les mots justes.
Trouver, j'aimerais
trouver les bons gestes.
Prouver, j'aimerais
conjuguer ce verbe au présent.
J'aimerais
savoir le dire. Tant de fois, j'aurais voulu le dire. J'aurais voulu le penser, j'aurais voulu le vivre. J'aurais voulu me lancer à croire que mon lexique a ses limites. Exit les similes, chat chez les typiques speech. Quand le silence en dit long, fragile, je suis comme touché au talon d'Achille. Ma gorge se noue, mon cœur en larmes, j'écorche les mots, compteur s'emballe. Y'a tant de fois, j'aurais voulu le dire et l'entendre aussi. J'aurais voulu lire ce mot tendre ici. Mais faut-il dire pour exprimer? Faut-il entendre ou lire pour le respirer? Lire pour exprimer, faut-il entendre ou lire pour le respirer? Tu vois de quoi il s'agit, ça y est c'est noté. Une lettre, juste avant N-O-P.
J'aimerais
trouver les mots justes.
Trouver, j'aimerais
trouver les bons gestes.
Prouver, j'aimerais
conjuguer ce verbe au présent.
J'aimerais
savoir le dire simplement.
J'aimerais